Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h passé de 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Et ce soir, on va parler. Hop, je retourne ma petite fille. On va commencer par des brèves. Ensuite.
Une chronique de Laurent Delabouze.
Ensuite, on parlera d'Anticor qui mord encore. Ah, c'est les titres mystérieux.
Le procès dit du tueur de DRH.
Et on finira sur Faut que ça se sache.
Et on va se commencer par une petite musique.
Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, le braquage a foiré. J'ai une balle dans le ventre, une autre dans le poumon. J'ai vécu à Sarcelles, je crève aux Champs-Élysées. Je vois la France entière du fond de mes ténèbres. Les charognards sont là, la mort ne vient pas seule. J'ai la connerie humaine comme oraison funèbre. Le regard des curieux communique linceul. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Le boulanger du coin a quitté ses fourneaux pour s'en venir cracher sur mon corps déjà froid. Il dit, je suis pas raciste, mais quand même les bicots, chaque fois qu'il y a un sale coup, ben il faut qu'ils en soient. Moi monsieur, je vous signale que j'ai fait l'Indochine, dit un ancien para à quelques arrivistes. Ces mecs c'est de la racaille, c'est pire que les Viet Minh. Faut les descendre d'abord et discuter ensuite. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Les zonards qui sont là vont se faire lyncher sûrement s'ils continuent à dire que les flics assassinent, qu'on est un être humain, même si on est truand, et que ma mise à mort n'a rien de légitime. Et s'ils prenaient ta mère comme otage ou ton frère, dit un père béret basque à un jeune blouson de cuir. Et si c'était ton fils qui était couché par terre, le nez dans sa misère, réponds jeune pour finir. C'est bien fait pour ta gueule, tu n'es qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour ta peau. Et monsieur Blancassis continue son délire, convaincu que déjà on a méché le diable, que ma mort fut trop douce, que je méritais pire. J'espère bien qu'en enfer je retrouverai ces minables. Je suis pas un héros, j'ai eu ce que je méritais. Je ne suis pas à plaindre, j'ai presque de la chance. Quand je pense à mon pote qui lui n'est que blessé et va finir ses jours à l'ombre d'une potence. C'est bien fait pour sa gueule, ce n'est qu'un petit salaud. On portera pas le deuil, c'est bien fait pour sa peau. Elle n'a pas 17 ans, cette fille qui pleure en pensant qu'à ses pieds il y a un homme mort. Qu'il soit flic ou truand, elle s'en fout sa pudeur. Comme ses quelques larmes me réchauffent le corps. Il y a beaucoup de monde dans la rue Pierre Charon. Il est 2h du mat, mon sang coule au ruisseau. C'est le sang d'un voyou qui rêvait de millions. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau. J'ai des millions d'étoiles au fond de mon caveau.
Et
Et donc on va commencer avec la police qui a donc abattu un jeune hier matin, suite à une histoire de refus d'obtempérer. Alors refus d'obtempérer, finalement, après un habituel emballement médiatique, on s'est aperçu assez vite, grâce à une vidéo, que le jeune s'était bien arrêté et que le refus d'obtempérer a été provoqué plutôt par le policier criant « Je vais te faire sauter la tête, je crois », et son collègue répondant, enfin surenchérissant « Shoot-le, shoot-le », ce qui a déclenché une tentative de fuite du jeune homme qui a immédiatement pris une balle dans la tête. Contrairement à ce qui a pu se passer ces derniers temps, enfin depuis principalement 2017, où quand même donc suite à une loi de
Hollande,
mais c'était Cazeneuve, son ministre à ce moment-là, suite à une loi de Cazeneuve qui venait aligner les droits de la police sur ceux de la gendarmerie, les tirs mortels dans ce genre d'affaires avaient augmenté de 50% dès la première année. Et donc depuis 2017, finalement, on est relativement habitué à ce genre d'événement. La particularité cette fois-là, c'est que entre cette phrase et le fait que le policier a oublié de jouer... La peur,
personne, ou la personne percutée,
ou la personne percutée, où il a oublié de crier « Ah, mon pied !» sur la dite vidéo, l'emballement médiatique s'est assez vite arrêté pour laisser le place à une espèce d'indignation généralisée, puisque même le président de la République et encore pire Gérald Darmanin semblent s'étonner de la manière dont ça s'est passé.
Et oui, parce qu'il me semble que tu as oublié de préciser que dans la vidéo, on voit que le flic n'est pas face à la voiture, qu'il est sur le côté.
Ah oui.
Qu'il a tiré quand il est sur le côté. Donc il n'était pas du tout en danger de se faire écraser ou quoi que ce soit.
Oui, exactement. Et donc c'est pour ça qu'en plus, il a oublié de dire « Ah, vous avez marché sur mon pied », parce que comme il était sur le côté et que... parce qu'on a déjà vu des vidéos où ils étaient sur le côté, mais où au moins ils faisaient semblant d'avoir peur. Là, il semble que le fait qu'il n'ait pas du tout fait semblant plutôt penché en sa défaveur, tant et si bien qu'il s'est fait lâcher quand même par à peu près tout le monde, y compris des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir lâcher des policiers, comme le syndicat des commissaires de police. Par contre, et donc c'est là qu'on a une surprise avec Gérald Darmanin, c'est que le syndicat alors, je sais pas si on peut appeler ça un syndicat, le groupuscule d'extrême droite policier en colère.
J'ai cru que t'allais dire Alliance, mais non, parce que ça marche aussi.
Ouais, non, ça marche aussi.
Mais plus représentatifs.
Non, j'aurais pas dit groupuscule, j'aurais dit l'organisation d'extrême droite ou un truc comme ça. Qui est dirigé par Bruno Attal, qui est un proche de Éric Zemmour, a tweeté un truc relativement immonde, ce qui a carrément amené Gérald Darmanin à porter plainte contre eux pour incitation à la violence, je crois.
Ouais. Et quand même, c'est bon de rappeler que pour le coup, on a quand même l'impression que si finalement l'emballement médiatique habituel ne s'est pas passé comme d'habitude, c'est aussi parce qu'il y a une vidéo qui où on voit très 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 bien ce qui s'est passé et que la version policière ne tient pas une seconde, même s'il y a à un moment ils ont essayé de dire oui mais en fait c'est pas tant ce qui se passe sur la vidéo que ce qui s'est passé avant, sauf que quand un flic décide de tirer, quelle que soit la loi de 2017, il décide en fonction de ce qui se passe maintenant, pas de ce qui s'est passé il y a quelques temps. Et du coup il y a eu quand même sur la dernière loi sécurité intérieure, il me semble, mais en tout cas il y avait une proposition de loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel qui visait à pénaliser le fait de filmer les forces de l'ordre dans l'exercice de leur fonction.
De diffuser.
Donc ça, on a le droit de les filmer.
Mais il fallait garder pour sa collection personnelle de vidéos de violence policière.
Ou alors aller gentiment la déposer au commissariat, dans le cas d'une IGPN, quand il y avait une enquête qui était ouverte finalement.
Voilà. Du coup, la famille a porté plainte contre le policier. Pour meurtre, quoi. Contre son collègue pour complicité à cause de la phrase « shoot-le ». Et contre les deux policiers pour faux en écriture, parce que comme d'habitude, vu qu'ils ne savaient pas qu'une vidéo existait, ils avaient commencé par mitonner grandement sur leur procès verbal, accusant la victime d'être un agresseur. Voilà.
Est-ce que tu peux nous raconter aussi ce que tu disais tout à l'heure sur l'ambulancier qui a transporté le corps.
C'est que du coup, un des ambulanciers du bled, mais c'est pas vraiment un bled
De Nanterre.
Un des ambulanciers qui apparemment vivait dans le quartier, et aussi la personne qui avait rapatrié le corps depuis l'endroit où il est mort jusqu'à l'hôpital, Et du coup, on le voit sur une vidéo s'énervant sur le policier en disant bon, c'est un jeune, machin, vous l'avez puté, c'est vraiment pas bien. Voilà. Et la police, dans sa grande capacité à faire preuve de discernement, a donc envoyé ce type en garde à vue pour menace sur personne dépositaire de l'autorité publique ou quelque chose comme ça. Voilà. Pour ne rien.
Et du coup, de ce qu'on sait, c'est que la mère de Naël appelle à un rassemblement, manifestation.
Demain devant la préfecture.
Devant la préfecture.
Nanterre, alors je ne sais pas ce que c'est. Un département quelque part là, dans voilà. La banlieue parisienne.
Et en tout cas, pour Lyon, ce sera y a
vendredi à 20h au Terreau. Et ce soir, comme ça, on vous le place. Il y a 17 minutes a commencé un rassemblement en soutien au soulèvement de la terre qui eux, donc ce rassemblement il devait être organisé déjà depuis un petit bout de temps puisqu'il est autorisé par la préf, mais du coup ils ont fait savoir par communiqué ce matin que les rassemblements organisés ce soir étaient aussi contre les crimes policiers, je crois que c'était ça la formulation.
Voilà. Bon, on a commencé ces infos par cette info qu'on n'a pas calé en bref d'habitude. Enfin bref, on savait pas trop quoi en faire parce qu'on imaginait bien que il y avait de grandes chances que vous en ayez entendu parler, mais que c'était pas non plus tout à fait opportun de mettre ça comme une brève et, ou de pas en parler. Bref, voilà. Maintenant, on va passer au bref.
Une info du mercredi.
Et donc le groupe de grande distribution Carrefour a annoncé hier un cinquième plan de départ depuis 2017. Lundi. Les 979 postes supprimés seront dans le siège administratif et ils feront l'objet d'une rupture conventionnelle collective. Et hier, on apprenait que la CNAM prévoit la suppression de 1700, donc la Caisse nationale d'assurance maladie, prévoit la suppression de 1700 postes d'ici 2027, soi-disant en raison de gains de productivité apportés par l'informatisation, ce qui surprendra n'importe qui ayant eu affaire à la CNAM ces dernières années. Vu les délais de traitement, on parle de délais supérieurs à un mois pour les arrêts maladie. Rappelons que les arrêts maladie, c'est du salaire que les gens perdent et donc résultat, ça paraît un délai relativement long.
Et on va faire un petit tour à Lyon et plus précisément du côté de la Guillotière et c'est le CG qui risque l'expulsion dans les prochains jours et c'est face à ça qu'un rendez-vous est fixé tous les matins à 6h jusqu'à midi pour se retrouver autour d'un café et discuter éventuellement des perspectives de ce qui est possible de faire. Le CG, c'est un bâtiment occupé par raid de l'îlot Mazagran où des exilés vivent et des espaces collectifs sont utilisés pour permettre à différents collectifs et initiatives de s'organiser. Ouverte en 2019 suite à une série d'expulsions de squats à la fin de la trêve hivernale. Depuis le début de la semaine, les flics mettent la pression, multiplient les intrusions dans le lieu en posant des questions notamment sur le nombre de personnes qui habitent dans ce squat. Pour un squat expulsable depuis 2 ans, ce sont des signes qui ne trompent pas.
La rédaction du JDD, le journal du dimanche, est toujours en grève après ne pas être paru ce dimanche. Et ils ont voté la reconduction aujourd'hui à 97%. Leur grève prend comme revendication le refus de la nomination de Geoffroy Lejeune, ancien directeur de Valeurs Actuelles, qui avait été licencié du journal il y a quelques semaines parce que sa ligne éditoriale, très 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 à l'extrême droite, était jugée peu rentable par les propriétaires actuels du journal. Arnaud Lagardère, le propriétaire du GDD, reste pour l'instant campé sur sa décision de mettre ce Geoffroy Lejeune. Il a notamment, et ce qui est cocasse après ce que je viens de dire sur les ambitions de ciment, annoncé que c'était un choix économique et pas du tout idéologique. Et on va continuer avec les soulèvements de la terre, puisque ce matin, 6 membres de syndicats et d'associations ayant appelé au rassemblement contre la méga bassine de Sainte-Soline le 25 mars ont été placés en garde à vue pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. Le parquet de Niort a précisé qu'il s'agissait de 6 hommes âgés de 38 à 46 ans et se revendiquant des collectifs Bassine Non Merci, les soulèvements de la terre et la Confédération Paysanne. On On poursuit avec une petite blague du conseil municipal du 18e arrondissement de Paris. Alors le 18e arrondissement de Paris, là pour ce qui nous intéresse, c'est un des arrondissements où c'est fini la commune de Paris autour de fin mai 1871. Et c'est aussi la commune sur laquelle se trouve le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur qui a été construit dans une optique d'expier les péchés des communards et notamment leur meurtre, enfin leur exécution de certains prêtres et membres du haut clergé. Et du coup, le conseil municipal du 18e arrondissement a voté aujourd'hui la construction d'une statue de Louise Michel juste en face du dit Sacré-Cœur. Et une dernière qui aurait pu ne pas être une brève, mais qui va quand même être une brève. La société DFS, appartenant à la galaxie LVMH. Donc appartenant à l'homme le plus riche du monde, je crois, hein, si je dis pas de bêtises.
Bernard Arnault.
Oui, mais je crois que c'est du monde hein, qu'il est le plus riche.
C'est ça.
C'est ça. Bon. Et donc il se trouve que cette société DFS gère la Samaritaine. Alors moi je ne sais pas du tout ce que c'était. C'est un ancien, enfin si, c'est un ancien grand magasin, mais qui a apparemment été transformé. J'ai pas réussi à comprendre ce que c'était, un truc à start-up à la con. Enfin bon, c'est pas très important, on s'en fout. Mais donc, ce groupe, donc ce BFS, attaque les militants de quatre associations, notamment le DAL et la CGT chômeurs et précaires, pour avoir mené des actions symboliques, enfin, une action symbolique le 23 février dernier. Ce jour-là, une dizaine d'activistes étaient rentrés dans le magasin, déployant des banderoles afin de protester contre une série de réformes, notamment les retraites, la réforme chômage. Et la loi de pénalisation des impayés de loyer, là, tout ça, là, qui dit loi anti-squat, mais qui est surtout loi anti-locataire. Loi Casbarian, n'oublions pas celui-là. La société attaque aussi en parallèle la CGT Commerce et Services pour une autre occupation de la Samaritaine le 22 décembre dernier. Donc DSF, la société, explique saisir la justice pour éviter que la Samaritaine ne devienne un lieu de rendez-vous de la contestation. Leur avocat demande quand même 2000 euros d'astreinte contre tout militant qui tenterait une nouvelle action.
Et allez, pour te mettre en forme avant ta chronique, on va se réécouter une petite musique et vous aurez compris, la thématique d'aujourd'hui, c'est un peu notre playlist anti-flic, anti-France.
Et oui, on va s'écouter. Celle-là, on skie... non, c'est toi qui
l'a décidé.
C'est un morceau de la compile, le C7H16 qui était sorti après les émeutes de 2005. Et du coup, voilà, c'est un hommage aux jeunes qui résistent à Nanterre et Aubervilliers.
Et on rappelle que C7H16, c'est la formule de l'essence.
Bouchèque.
Par ici, ni Dieu ni maître ni esclave ni possible. RK, une goutte de plus dans cet océan de merde. En attendant que ça déborde et que ça gêne. Si ça gêne, y'a pas de problème, y'a pas de paix. On aura les obstacles, on vénère pas sans frais. S'il en faut les cramer, y'en aura. Les pires produits de ce système réuni, crois-moi. Fuis-moi du œuf que je l'allume mon coco. Maintenant, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu bombé à Mexico. En rayant ou en solo, on repart à zéro. Mélancolique, m'agite et pose avec Patrick sur speed. Mécanique, mécogite, multitep, claustrophobique. Déteste sur rythmique, anthropophagique. Et si y'a un hit qu'on se kick, quand l'apparence est l'ego trip, quand l'ignorance des médias et des politiques flics reste les cendres de ce qu'ils sèment logique.
Une nouvelle dépêche vient de tomber.
La propagande marche plus que jamais. L'invasion des jeunes à capuche les effraie. La rage face à l'oppression, la haine, l'interprétation, la prédation des ragoteurs. Les chaînes et les stations toujours à l'heure, à l'affût du sans-cesse pour faire leur peur qu'ils crèvent. RK. Fille-moi du œuf que je l'allume mon coco. Maintenant ma ville j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu bombé à Mexico. En rayant ou en solo on repart à zéro. Antifa, sera jamais trop tard pour abattre ces bâtards qui sont en bombeur sous en costard. Cossa, tes initiales CNS et ça me rappelle vaguement quelque chose. La vieille France s'enfonce et on s'étonne. Comme des dons mousses à voter sans vergogne. J'ai déjà dit mais je le répète c'est clair, l'illusion démocrate est un fait. Les caisses brûlées alors, la Saint-Jean avant l'heure. Mon prétexte pour la preuve, nous foutre un hélico sur le pif. Casse dédié aux émeutiers qui n'attendent plus que le temps passe.
Ça fait la une et la presse s'anime. Une seule représentation des victimes. Les honnêtes citoyens devenus piétons, les pauvres commerçants et leurs ruines. Tous participent au capital qui ne s'étonne pas d'être une cible remarquable. Pas cette banque brûle à mon goût. Mais ma faute, mes bras tremblent et mes genoux. Trop conditionné, je sais chaque jour tirer mes perfs. Mais c'est facile comme tout le monde d'être def. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma chance, ma vie, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu bombée à Mexico. En rayon ou en solo, on repart à zéro. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma chance, ma vie, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu bombée à Mexico. En rayon ou en solo, on repart à zéro. R-Y-O, J-O-R-D-O. K-06-6.
Un début de journée anormalement calme qui s'est terminé par des échauffourées sur l'une des principales artères de la ville, symbole d'un capitalisme triomphant.
Attention, vous êtes prêts ? Et
maintenant, en direct et en mégahertz, voici la chronique de Laurent Delabeuze.
Bonsoir. Alors que Bonsoir. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est parti à Mayotte Bonsoir. Pour se vanter du nombre de logements qu'il a abattus, remettant quantité de familles à la rue, en banlieue de Paris, sa police, elle, c'est un jeune qu'elle a abattu, réalimentant la colère de la rue. Alors que le rouleau compresseur et meurtrier de la politique du gouvernement est lancé dans un boucan d'enfer pour étouffer les voix de la colère, il y en a un qui la ramène pas trop. En effet, un ancien membre de la Macronie, dont le procès où il est convié comme victime se déroule aujourd'hui. Cet ancien candidat, furtif à la mairie de Paris, remplacé au pied levé par Agnès Buzyn, a décidé, en ce qui concerne son procès, de ne pas s'y montrer. Il a vraisemblablement jugé qu'il en avait déjà assez montré comme ça. Et oui, Benjamin Griveaux, parce que c'est de lui qu'il s'agit, le gardien sacré des valeurs familiales traditionnelles, qui avait envoyé une vidéo de lui à sa maîtresse en train de s'exciter le Benalla. Alors, exciter le Benalla est une expression utilisée et redoutée dans le monde de la Macronie, puisqu'elle symbolise la perte de contrôle d'un collaborateur un peu encombrant qui dépasse les bornes et risque d'ébranler le gouvernement. Bon, je vais passer très vite sur Griveaux et cet humour.
Oh, mauvais jeu de mots.
Oui, c'est pour ça que je vais passer très vite sur cet humour de merde et surtout limite, mais que je suis obligé de produire sur l'ordre d'un membre de l'équipe de Secanu Info, membre dont je tairai le nom, mais que vous aurez tous et toutes reconnu. Donc voilà, on y va, le plus rapidement possible. Benjamin Griveaux ayant décidé de rester discret, certains journaux ont sympathiquement décidé de lui consacrer quelques articles et à cette occasion, nous faire un point sur sa vie. On nous rappelle assez ironiquement qu'il ne s'est pas fait tout seul uniquement à la force du poignet, puisqu'avant d'être chez Macron, il avait été formé par Dominique Strauss-Kahn. On nous précise aussi que petit à petit, il va de mieux en mieux, qu'il est en train de s'en sortir et qu'en tout cas, il tient le bon bout. Voilà, ça suffit. J'étais obligé, je suis désolé. C'est pour ça que je vais enchaîner avec un sujet extrêmement intéressant pour me faire pardonner. Je vais parler du Parti Socialiste. Non mais sérieux, vous savez où j'en suis arrivé là ? Je suis tellement au bout du rouleau que j'en suis au point de parler du Parti Socialiste. Non mais sérieux, alors que je pourrais parler, je sais pas, de la récolte de la Farigou, la Saint-Pescadou, la Coucourde, ou du recyclage des ordures à Bagnoul-sur-Couzon. Eh ben non, désolé, je vais vous parler du PS. Et là, les ordures, on les recycle pas, on les garde. Sinon, il n'y aurait plus personne. Je vais vous parler de Emma Rafovitch. Vous savez qui c'est ?
Non.
Alors, bah, c'est normal, parce que c'est la présidente des jeunes socialistes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, même si on la connaît pas, qu'est-ce qu'elle a été foutre là-bas, la pauvre Emma ? Mon idée à moi, c'est que si t'as envie de devenir présidente de quelque chose, c'est plus facile aux jeunes socialistes qu'à l'association des amateurs de fromage blanc en faisselle de Leader Prize, par exemple. Bon, mais qu'est-ce qu'elle a fait Emma Rafovitch ? Eh ben, elle a fait un discours pour dénoncer les membres du PS qui veulent quitter la NUPES. Dans ce discours, elle a pointé du doigt, je cite, de vieux irresponsables. Elle a aussi affirmé que il n'était pas sérieux de laisser des éléphants responsables de notre chute décider de notre avenir. Bravo ! On n'avait pas vu un tel élan révolutionnaire dans le parti depuis Jaurès. On se doute que ça va faire changer les choses. En même temps, quand on applique la tactique du coup de pied dans la fourmilière dans un cimetière d'éléphants, faut pas s'attendre à grand-chose. Tout le monde a compris que c'est Hollande qui était visé. Là, c'est sûr, ça va bouger. Rien que pour lui faire tourner la tête, il faut au moins 10 minutes, sans compter que le torticolis qu'il touche depuis 10 ans fait qu'il ne peut plus la tourner qu'à droite, sa tête. Pendant ce temps-là, le président de la République est à Marseille pour cultiver son image de bienfaiteur du peuple et annoncé entre autres un plan de rénovation des écoles des quartiers populaires. Ils vont notamment installer des bâches pour combler les trous dans les toitures afin qu'en cas de pluie, les rats qui bouffent les pieds des écoliers puissent rester au sec. La déambulation marseillaise de Macron a été, comme d'habitude, encadrée par un énorme dispositif de sécurité, zélé et sur les dents, afin d'éviter toute contestation. Au point même que chaque porte d'immeuble sur le passage du président était gardée par les gendarmes afin qu'aucun habitant ne puisse sortir de chez lui ou chez elle. Pourtant, quelques instituteurs et institutrices ont réussi à perturber la petite musique bien orchestrée du ballet présidentiel en surgissant d'une école sur le trajet tout en casserolade. Autant dire que les gendarmes se sont précipités sur eux et elles pour les repousser à l'intérieur et les enfermer dans l'école pendant plus d'une heure. Et voilà, les profs collés. Un petit indice qui amène
à... Je sais pas quel camp choisir.
Un petit indice qui amène à penser que finalement, le chef d'État ne dirigerait pas le pays en bon père de famille, mais plutôt en bon maître d'école. Et si la majorité des élèves est prête à le balancer par la fenêtre avec sa craie et son tableau pour autogérer la classe, c'est pas le cas de tout le monde. En effet, Roselyne Bachelot, ex-ministre de la Santé sous Sarkozy et ex-ministre de la Culture sous Macron, a déclaré sur RTL à propos des futurs présidentielles et du chef d'État actuel « Tout le monde est d'accord pour une troisième candidature. Ceux qui veulent élire Emmanuel Macron comme ceux qui veulent le faire battre. » Et je continue à la citer. « Je trouve que limiter à deux mandats, c'est une privation de démocratie. Une privation d'opportunité, quelle qu'elle soit pour les citoyens. Je trouve que l'on n'a pas à limiter à deux mandats. » Mais attention, même si Roselyne est à la mode avec de plus en plus de dictateurs qui s'accrochent au trône, comme en Russie, en Chine ou en Turquie, évoquer un troisième mandat de Macron, alors qu'une grande majorité du peuple ne le supporte déjà plus au bout du deuxième, au bout du début du deuxième même, ça peut être dangereux. Les centres-villes de France se sont embrasés pendant deux mois, un certain nombre de banlieues de Paris s'enflamment à leur tour, et les victimes de la répression toujours plus nombreuses ont décidé de ne plus se laisser faire. Alors Roselyne, te serais-tu fait posséder par l'esprit d'une anarchiste ? Parce que souffler sur les braises maintenant paraît être une bonne stratégie pour lancer un incendie prêt à ronger les piliers qui maintiennent encore un pouvoir anachronique et chancelant.
Canu Info.
Anticorps, c'est cette association qui a perdu la semaine dernière son agrément l'autorisant à se porter partie civile dans les affaires de corruption. L'événement avait fait pas mal de bruit la semaine dernière, mais ça n'entrave manifestement pas totalement son action. Ainsi, cette association de lutte contre la corruption a porté plainte aujourd'hui contre X dans le cadre du plan de relance autoroutier de 2015. La plainte dénonce un enrichissement exceptionnel des sociétés concessionnaires d'autoroutes pouvant exactement s'analyser comme un, donc là c'est une citation, comme un avantage injustifié. La présidente d'Anticor explique qu'elle vise à interroger la responsabilité des décideurs publics sous la présidence de M. Hollande, encore lui, dans les négociations avec le secteur privé de la concessionnaire de la concession de biens publics, les autoroutes. Et, alors, devinez qui c'était qui était à l'époque dans l'affaire.
Marlène Schiappa.
Non, c'est trop vieux, là. Elle n'était pas encore là.
Ah, l'autre des...
Mais non, un très connu.
Un parti socialiste
et... Ouais, enfin à l'époque.
Le gars des... Non, c'est pas lui qui...
Emmanuel Macron.
Ah
ouais, vous le connaissez celui-là.
Ah, ça me dit quelque chose.
Emmanuel Macron, son pote Alexis Collère. Alors Alexis Collère qui est aussi poursuivi dans une autre affaire, mais il y en a tellement que je... J'arrive plus à me souvenir ce que c'est.
Sa
casserole, et qui est actuellement secrétaire général de l'Élysée.
Moi, je comprends pourquoi on leur a retiré leur agrément aussi à ceux-là maintenant, avec que des ministres qui ont des affaires.
Bah ouais, c'est ça, du coup ça fait... Enfin bon. Donc Alexis Kohler, qui est actuellement secrétaire général de l'Élysée, et une troisième personne, Elisabeth Borne. Du coup là, on est en train d'avoir une affaire avec le président, son bras droit, et puis sa première ministre.
T'en comprends qu'il demande un peu des conseils à Sarko, Emmanuel Macron, de temps en temps. Parce que...
Et ouais, parce qu'il s'y connaît, Sarko, en procès pour détournement de biens publics ou je sais pas quoi. Là, vous voyez. En tout cas, Anticorps estime que le taux d'endettement... vous allez voir, c'est un peu compliqué. Ils estiment que le taux d'endettement retenu dans le plan de autoroutier, PLA, je sais plus ce que c'est le L, était manifestement sous-évalué. Ce qui a permis d'augmenter la rémunération théorique des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Et voilà. Et donc l'association soupçonne un avantage tout à fait injustifié et contraire aux intérêts publics. Voilà, voilà.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Et c'est encore moi. Et donc, on finit avec, enfin moi en tout cas je finis, ouais c'est ça, moi je finis avec le procès dit du tueur de DRH. Alors au début, ouais, je me disais que ça allait être sympa, et en fait c'est glauque cette histoire, mais c'est pas grave. Le procès se tient actuellement à Valence, c'est le procès du dénommé Gabriel Fortin, qui devrait s'achever dans la soirée avec un verdict donné par le jury populaire. Le ministère public a requis contre lui la peine maximale, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté quand même de 22 ans. Alors ça, je ne sais pas si c'est le maximal, mais en tout cas, ça commence à faire beaucoup.
C'est vrai que c'est le maximum, mais je ne suis pas sûr.
Je me demande s'il n'y avait pas 25 ans. Enfin bref, on s'en... enfin, c'est pas important. Tac, tac, tac.
Comme dirait Benjamin Griveaux.
Ça suffit, toi. On va te couper ton micro. Je te coupe
le micro. Coupe le micro, s'il te plaît. Donc, il faut dire que la peine est sévère, mais il faut dire que l'homme n'est pas très prêt à collaborer avec la justice. Je vous raconterai un peu après. Donc, Gabriel Fortin, c'est un ingénieur au chômage qui a 48 ans aujourd'hui et qui est poursuivi pour l'assassinat d'une cadre de Pôle emploi dans l'agence où lui, il était inscrit, et de deux responsables des ressources humaines qui avaient participé à ses licenciements. Une décennie auparavant, donc il a eu deux licenciements de suite, et dans ce cadre il y a aussi une troisième tentative d'assassinat, et je crois que c'est à ce moment-là qu'il s'est fait choper. Depuis son arrestation, l'homme s'est enfermé dans le mutisme et refuse de commenter ses actes. Le procès qui dit, enfin, tant et si bien que le procès qui devait se finir à la fin de la semaine a même été écourté face à l'absence de collaboration de monsieur Fortin, qui s'est contenté de déclarer en tout et pour tout. Alors, il en a fait une autre du même type au début du procès, mais grosso modo, les journalistes disent qu'il a fait deux fois la même. Pendant des années, j'ai été victime d'atteintes à ma vie privée. J'ai envoyé de nombreuses plaintes. Ces personnes n'ont rien fait. La justice savait. La justice n'a rien fait. Elle est responsable de ma situation, car elle est défaillante. Voilà. Les avocats du prévenu, pour les avocats du prévenu, c'est la violence des deux procédures de licenciement auxquelles l'homme a été soumis qui a été déclencheur dans cette affaire. Ils ont passé le procès à essayer de démontrer que c'est la violence sociale qui a été le déclencheur d'une crise de décompensation de leurs clients, crise à l'origine des actes meurtriers. En face, le ministère public s'est attaché à prouver que ces assassinats étaient commis avec une froide détermination. Le verdict de cette sombre histoire de lutte des classes devrait tomber dans la soirée.
Et allez, on s'offre une autre pause musicale et on va s'écouter Fils du béton avec 22-22, 17-17.
17-17 22-22 22-22, v'là l'équipe de France, les bleus. Cour et chasse au canard comme 40 bleus. Gyrophare et grissement de pneus. Fonce de Ricard et tête de nœud. C'est Califrat, c'est le chant des plaques. Soir on fait le bisou, Judas à la Pâque. Insulte raciste, des coups de matraque. Qu'est-ce qu'il dit l'agent? Il dit écoute ma carte. Tu vides tes poches, il vide son sac. Vous les noirs, les arabes, vous puez, vous êtes tous sales. Police nationale, c'est du joli. Patrouille au whisky dans les rues la nuit. L'autre qui dit qu'il a fait l'Algérie. Et qu'en revenant il a failli ouvrir une boucherie. Voir Alger et mourir. Voir Roissy et mourir. Vivre dans le quartier et mourir. Ok, le préfet a des chiffres à fournir. Mais le quartier a besoin de se nourrir. Je vous présente l'inspecteur la torture. Et puis son collègue l'inspecteur la bavure. Au commissariat, entre les murs. Qu'est-ce qu'a fait la République? Bête à base dure. Au fait, je voulais demander. Ils font du camping, les CRS. Sur les parkings de nos tests. Ça sent bizarre dans le secteur. Ça sent la racaille grillée aux tasseurs. Mais qui nous protège de des bleus. Quand l'un d'eux a trop bu et devient trop nerveux. J'ai la grime, Malek ou Sekin. Je dédicace à toutes les victimes et Sekin. 22-22, balade vers les bleus. 17-17, sort la nisette. Vingt 22-22, et bève là les bleus. Ça le descend dans le quartier des lépreux. Qui joue le cowboy armé. On n'a pas buté le shérif ou l'adjoint comme Bob Marley. Tu veux un cliché, on n'aime pas la police. Comme chaque jour, leur syndicat nous vomisse. Au petit matin, perquise. Faites pas de mal à mon fils chéri. Proton dans ton pays. Allô. Vous avez demandé la police. Allô. On s'appelle tous Aïssa Habib ou Amadou Diallo. Safari au Mirail à Monte la Jolie. Balle trap au flashball dans le dos, ça fait mal. Les stups traînent dans la cube. À la recherche de keps, de quêtes de cubes à l'intérieur des culs. La racaille, elle est têtue. Elle nous jette des queues trues. Au lieu de nous souhaiter la bienvenue, ça sent la bévue. Pour ce prévenu, des fois l'état assassine ni vu ni connu. Face à face à terre, mais qu'est-ce que tu vas faire à part te taire ou insulter leur mère? Les bleus nous détestent, c'est pas un rêve. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent que tu crèves au transiquet des orfèvres? 22, 22, v'là les bleus tout dégueu. Cachez-vous les rabzins et les niqueux. 22, 22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17, 17, sort la nice. 22, 22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17, 17, sort la nice. 22, 22, v'là l'équipe de France, les bleus. 17, 17, sort la misère. Et quand leur syndicat nous vomisse, j'irai chanter justice en banlieue au bal de la police.
Chut, écoutez.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine.
Moi, je croyais qu'on m'entendait pas, mais c'est vrai qu'on m'entendait pas. Alors, donc suite de la situation en Grèce après le naufrage, le fait que plusieurs centaines d'exilés soient morts noyés aux portes de la Grèce n'a pas empêché le parti ultra-conservateur mené par Mitsotakis, adepte d'une politique ouvertement raciste envers les migrants, d'obtenir la majorité absolue et donc de le reconduire comme premier ministre. Visiblement, on salue même son action criminelle envers les exilés, puisque le parti a même progressé par rapport à son score d'il y a 4 ans, malgré ou grâce visiblement aux refoulements illégaux et aux nombreux actes illégaux qui ont été recensés. Au bal des ordures, on a décidé de se tirer dans les pattes. Le torchon brûle entre Athènes et Frontex après le naufrage le plus meurtrier de l'agence européenne. A déclaré que la Grèce avait refusé l'appui d'un avion de reconnaissance pour surveiller l'avancée du navire le 13 juin. Frontex pourrait suspendre ses activités en Grèce depuis que le précédent directeur de l'agence a été mis à l'écart car ses troupes participaient de manière beaucoup trop visible et volontaire aux pushbacks illégaux menés par les gardes-côtes grecs. Donc il pourrait suspendre ses activités et c'est un responsable, je cite, des droits fondamentaux qui a été nommé au sein de l'agence, qui s'appelle Jonas Grimenden, et c'est lui qui, lors du conseil d'administration, a soulevé la possibilité de s'appuyer sur l'article 46 qui prévoit une possible suspension en cas de, je cite, violation grave et susceptible de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Donc, si le France demande pourquoi ils ne l'ont pas fait avant. Bonne nouvelle, non, là on blague. Demain et après-demain, les chefs d'État des 27 membres du Conseil européen se réunissent à Bruxelles pour débattre notamment de la question migratoire. Et en préambule, ils devront répondre à la question entre nous. Ils font du bon boulot quand même, les Grecs, avec les migrants. Blague bis. Depuis, les témoignages des rescapés abondent dans le sens d'une intervention dangereuse des gardes-côtes grecs. Le journal Le Monde en a recueilli un certain nombre. Tous disent avoir souhaité être secourus, contrairement à ce qu'affirment les gardes-côtes qui ont déclaré que les exilés ne souhaitaient pas être secourus et qui voulaient se rendre en Italie. tac, tac, tac. Et tous ont affirmé que les gardes-côtes se sont approchés du navire et ont lancé des câbles à deux reprises. Et c'est lors de cette deuxième tentative que les rescapés ont senti, donc deuxième tentative de lancer des câbles, ils y sont réussis, ils ont réussi, et les rescapés ont senti d'abord le bateau tracter, puis le bateau s'est incliné à gauche, puis à droite avant de couler. Ce que d'ailleurs confirment aussi les gardes-côtes grecs. Alors vous imaginez bien pas de la même manière, mais ils disent que effectivement, alors une fois, on l'a dit la semaine dernière, mais au début ils ont dit non, on s'est jamais approché. Après il y a eu des témoignages et des témoignages d'autres navires qui eux sont venus, qui ont dit bah en fait si, c'est vrai qu'après eux ils sont venus. Du coup ils ont dit oui, bon d'accord, c'est vrai, on s'est approché, mais on s'est juste approché, on s'est pas attaché. Après il y a eu cette histoire de corde qui est ressortie plusieurs fois, du coup ils ont été obligés de dire non mais il y a eu une corde, ok on a sorti une corde une fois, mais c'était pour nous se stabiliser à côté, pas du tout pour les tracter. Bref, mais ils ont dit dans tout et c'est vrai quand on a vu, on n'a rien fait nous, mais on a juste vu effectivement le navire basculer de gauche à droite puis après chavirer. Un peu histoire de dire pour eux, il y a dû avoir un mouvement à l'intérieur du bateau. Comme le bateau est surchargé, ça peut créer ce genre de truc. Et du coup, le bateau a coulé du coup, à cause des personnes à l'intérieur. Plusieurs acteurs du sauvetage maritime s'étonnent que des gardes-côtes aient voulu remorquer un tel bateau, car les risques de casque de la coque qui subit trop de contraintes à ce moment-là sont beaucoup trop importantes, ainsi que le risque pour le bateau de chavirer. Donc oui, on imagine qu'un bateau qui est en très mauvais état, qui est, j'imagine, chargé 10 fois plus que ce qu'il devrait, avec une coque fragile, s'il est tracté, vous voyez bien comment ça se passe si on tracte un bateau, ça fait un mouvement de roc. Bref, tout se fragilise et risque de se casser ou alors de créer des mouvements oscillants. Pour François Thomas de SOS Méditerranée, face à une telle situation, je le cite, l'urgence absolue est d'envoyer des bouées, des gilets de sauvetage, de rassurer les gens avec autorité pour éviter les mouvements, pas les remorquer. Et on voit très bien si vous vous baladez un peu sur les comptes Twitter de SOS Méditerranée ou d'autres ONG, ils filment régulièrement des opérations de sauvetage un peu pour montrer comment ça se passe. Et effectivement, on les voit toujours jamais avec leur gros bateau. Ils arrivent toujours avec un petit bateau semi-rigide, avec plein de gilets de sauvetage qu'ils donnent aux gens. Ils les envoient pas pour pas que les gens tombent à l'eau. Enfin voilà, tout se passe dans le plus calme possible et pas du tout avec des gardes-côtes grecs menaçants.
Il faut que ça se sache.
Et bien toujours en Grèce, et c'est toujours une histoire de gardes-côtes et de flics grecs, et c'est l'ONG, alors franchement son nom c'est Aegean Boats, donc ça s'écrit A-E-G-E-A-N, Boat, qui a publié une vidéo lundi 26 juin montrant des migrants menottés dans le dos, les yeux bandés avec du scotch marron. Vous voyez ce scotch de déménageur, bah là, hop, les flics ont fait le tour de leur tête
carrément, ils ont entouré leur tête en entier, c'est pas que sur
C'est pas que sur les yeux où ils auraient pu assez facilement l'enlever. Non, c'était genre ils ont fait un ou deux tours, ce qui fait que c'était pas du tout possible de l'enlever, entassé dans un camion. Comme les flics grecs ont eu l'amabilité de ne pas menotter les mains des deux enfants présents dans le camion, c'est grâce à l'un d'eux que la scène a pu être filmée. L'ONG a été contactée par une femme présente dans le camion. Elle explique que son groupe a été battu par les flics qui ne se sont pas identifiés comme tels et ensuite ont été mis dans un camion. Et en fait, assez vite, ils ont c'était par téléphone GPS et ça, c'est assez... par téléphone satellite, pardon, et du coup la communication s'est coupée. En tout cas, d'après ces données GPS, le camion se trouvait sur l'île de Kos, à 4 km de Bodrum en Turquie. Il y a donc de fortes chances à parier pour que les personnes soient expulsées vers la Turquie. Pour Tommy Olsen, membre de l'ONG, ce genre de pratique est assez courant. Je le cite, c'est assez courant depuis quelques années. En Grèce, nous avons des unités de police spéciales qui sont déployées pour garder les frontières. Elles sont notamment présentes sur les îles. Elles conduisent des véhicules banalisés, utilisent des technologies de pointe comme des drones et peuvent donner des ordres à la police locale si des unités sont très entraînées. On pense qu'ils vont être placés sur une embarcation pour être refoulés en Turquie, estime-t-il, et il précise... En général, quand on leur bande les yeux et qu'on les menotte les mains dans le dos, ce n'est pas pour les emmener dans un camp de réfugiés.
Il faut que ça se sache.
Et moi, j'ai fini pour le faut que ça se sache. Et on a une info, on a une petite info de.
On a
de
une petite rectification de sur le. Donc, Gérald Darmanin est tellement énervé qu'il a carrément annoncé qu'il allait réfléchir à la dissolution du dit groupuscule là dont on vous a parlé, contre lequel il portait plainte. Donc non seulement il porte plainte contre lui, mais en plus il annonce qu'il va dissoudre cette organisation de policiers, ou en tout cas qu'il va y réfléchir. Alors je ne sais pas si on peut vraiment se réjouir qu'ils aient la dissolution aussi facile que ça.
On se réjouit jamais de la dissolution au final.
Ouais.
C'est quand même vraiment jamais de bonnes nouvelles.
Après, ça finit toujours un peu n'importe comment. En tout cas, voilà. Il est tellement en train de se passer quelque chose qu'il s'est énervé et il a décidé de dissoudre l'association. Et sinon, il y a des manifs qui ont lieu en fait, dès ce soir. Dans plusieurs villes, notamment à Lille, où apparemment la manif est partie en sauvage relativement déter. Et il y a aussi des petits incendies un peu partout en France, notamment à Toulouse, où il y a apparemment des quartiers qui ont commencé à faire cramer des trucs, là, en fin de... Bon, en début de soirée, on va dire. Voilà. Notamment la Rennerie, je crois.
Eh bien, écoute, tu transitionnes parfaitement la musique qui suit. Ce sera la musique et la dernière musique qui conclura ce Canu Info. On va écouter 8-6 Crew avec Émeute et après
on vous laissera avec
notre générique de fin.
Notre générique et puis peut-être la coordination des groupes. Non, l'union du CL Libertaire.
Ouais, avec Idée Noire.
Avec Idée
Noire. Mais c'est pas sûr parce qu'on les voit pas derrière.
Non,
bref,
ils sont pas encore là.
On vous laisse la surprise. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour peut-être notre dernière de la saison et merci de nous avoir écoutés.
La semaine prochaine.
Radio Canu. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info de mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
underway with grands to pay. This gem will a script, a definite impeccable. Ride around and I put everything in a flow. I'm the non, I'ma look very mean when I flow. Scribe a line, but it's never been at a show. By the time to the